France Bleu Azur, Adrien Mangano.
Passion. Passion.
Adrien Mangano.
Passion.
Passion Azur, le rendez-vous des passionnés de notre région et ce matin passionné par la langue de chez nous, le Nissartz. Il est agriculteur, il est professeur, auteur, metteur en scène. Frédéric Bélanger, bonjour.
Bonjour Adrien.
Et bienvenue. Quelques mots sur la famille pour commencer, des Niçois sur plusieurs générations ou pas?
Oui, des Niçois sur plusieurs générations, sur Tourrette-le-Vins oui. En particulier, mais aussi évidemment des Piémontais comme une bonne partie des Niçois. Hein.
Piémontais.
Oui, forcément.
Tous agriculteurs ou pas?
Jusqu'à la génération de mes grands-parents, oui.
D'accord. Ouais. Est-ce que ça parlait le Nissart à la maison quand vous étiez petit?
Ça ne parlait
que ça, ouais. D'accord.
On ne parlait pas en français. C'était, ça aurait paru complètement incongru de parler français entre nous. Quoi.
Alors, on aurait pu penser que le Frédéric devienne aussi agriculteur, je veux dire, tout de suite. Alors, finalement, vous êtes dirigé sous les drapeaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager?
Oh, ce qui m'a poussé à m'engager, c'est sans doute l'envie de partir, de changer de coin, de voir un peu autre chose, l'aventure. Ouais. Voilà, les trucs quand on a... Enfin, les motivations d'un gamin de 18 ans. Quoi.
D'accord.
Et puis aussi le fait que il fallait surtout pas être agriculteur. Il fallait surtout pas être paysan.
Ah bon?
Ah non, mais nos vieux ne voulaient absolument pas qu'on reprenne les terres. C'était une vie infernale. C'est pas des coins où l'agriculture est très facile, donc ils en avaient quand même souffert.
Pas que vous
et donc,
chose,
et donc hein. Ils voulaient pas qu'on reprenne, c'était bon. Évident.
Alors, vous êtes resté dans l'armée pendant combien de temps à peu près?
17 ans.
Qu'est-ce que cela a apporté à votre vie? Est-ce que vous avez retrouvé cette envie de voyager que vous espériez avant de partir?
Oui, parce que j'ai eu la chance de servir dans des unités qui bougeaient beaucoup, donc en fait, j'ai pas souvent été en France, donc c'était très bien.
Oui.
Ensuite, j'ai vu des choses que j'aurais pas vu autrement, quoi. Ça m'a fait bouger, ça m'a fait rencontrer d'autres cultures, j'ai beaucoup fait l'Afrique, donc ça m'a permis de découvrir notre univers, quoi. Donc ça, c'était excellent. Mais en fait, je dis un autre univers, mais finalement pas tellement différent du nôtre. Hein. Finalement pas tellement différent du nôtre. Des gens simples. Qui recherchent qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin de survivre, de vivre, qui se contentent de choses beaucoup plus basiques que nous, mais beaucoup plus vraies aussi. Donc non, c'était une plusieurs de très belles expériences.
Ouais. Mmh. Alors, retour à Nice, à la Belle en 2003. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire après l'armée?
Ah, bonne question. Oui, plein de choses.
Oui.
Donc pour l'instant, je n'ai fait qu'une partie. Mmh. Oui, plein de choses. En fait, ce que je voulais, la trame de fond, le fil conducteur, c'était le retour à la terre. Quoi. Ça, c'était
d'accord.
Évident parce que d'abord, je l'avais jamais réellement quitté, hein, puisque je travaillais toujours à l'exploitation avec mes parents ou mes oncles. Mais ensuite, c'était ça. C'était le retour à la terre, le retour à l'olivier, le retour à l'enracinement familial. Quoi. Ça, c'était le fil conducteur.
Mmh.
Après, bon, j'ai fait diverses choses jusqu'à pouvoir enfin m'installer comme agriculteur.
Quoi. D'accord. En l'exploitation, on en parle un petit peu. Beaucoup de terrain, combien d'oliviers, des animaux?
Non, dans les 300 oliviers, quoi. Mais donc c'est pas énorme. Hein. Le maraîchage l'été, voilà. Donc le but est d'en vivre. Hein. Le but n'est pas de. Je vais vous prendre une réplique de la pièce qu'on est en train de jouer, mais la terre, on ne devient pas riche avec. Hein.
Oui.
Depuis le temps, ça saurait quoi. Mais voilà, c'est une passion, c'est un mode de vie en fait. Hein, quand on choisit ce métier, en fait, c'est plus un mode de vie souvent qu'autre chose. Hein. Il faut pas se faire d'illusions.
Frédéric Bélanger, notre invité passion jusqu'à 11h, passionné par le Nissart. Il écrit également des pièces, il est agriculteur. Tout un univers à découvrir en sa compagnie.
11h, Passion Azur.
Frédéric Bélanger est issu d'une vieille famille de Niçois, agriculteur de père en fils. Il a grandi près des oliviers, officier ensuite dans l'armée pendant quelques années. Il est revenu à Nice avec la ferme intention de transmettre notre culture pour certains et de l'entretenir pour d'autres avec des cours de Niçois en échangeant des souvenirs d'antan pour protéger l'avenir et pour que son village de Tourrette conserve son identité. Vous êtes, on parlait de Niçois à la maison, vous le disiez. Vous êtes un autodidacte, vous avez appris ou quelqu'un vous a initié ensuite?
Non, alors j'ai pas du tout appris en fait de manière scolaire. Hein. Bon, après j'ai passé le Niçois quand même au bac,
oui.
En seconde langue en plus. C'était dû à mon aversion de ma seconde langue d'origine qui était l'allemand. Mais en fait, je l'ai appris à la maison en langue comme ça. Donc le jour où on m'a dit, tu vois, tout ce que tu dis là, ça s'écrit de telle et telle manière, je dis, ah, mais c'est magique, on l'écrit en plus. Et mais en fait, moi, c'est quasiment ma première langue, puisque je suis allé à l'école assez tard, à 5 ans et demi. Donc d'ailleurs, mon premier souvenir d'école, c'est assez amusant, parce que c'est un souvenir assez marquant. J'étais donc à Saint-Joseph. Il y avait une grande sœur là qui nous faisait les cours, j'ai oublié son nom, et puis elle nous demandait ce qu'on avait mangé quoi à midi. Donc moi j'avais mangé des pâtes et du poulet, super original. Donc je lui dis, ben moi ma sœur, j'ai mangé de la pâte et du poulet. Et alors le de la pâte, ça a fait rire toute la classe qui s'est moquée de moi pendant un bon petit moment.
Alors que
et ça a été un truc qui m'a beaucoup marqué quoi. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que si on regarde un petit peu dans la manière de parler des gens ici. Ils s'en rendent même pas compte, mais en fait, c'est truffé de niçois traduits mot à mot en français, et qui en français est particulièrement incorrect, quoi.
Et oui, de la pâte.
Mais qui donne tout son charme. Et oui, c'est un collectif.
Exactement,
donc,
effectivement.
Voilà, donc je me suis formé, oui, tout seul, parce qu'en fait, tout le monde parlait ça, et c'était notre langue, quoi. Oui.
Frédéric, il y a ceux qui considèrent cette langue, pas nous, bien sûr, hein, comme un musée. Quel est votre sentiment sur la question?
Mais elle peut devenir un musée. Oui. Évidemment qu'elle peut devenir un musée si plus personne ne la parle, et si on se contente de l'apprendre dans des cours, et de la parler en cours, et pas ailleurs, oui, effectivement, ça peut devenir un musée. Mais j'ai pas du tout, moi, en tous les cas, envie qu'elle devienne un musée. Donc, il faut la parler le plus possible. Alors, je me suis décidé à essayer de l'enseigner. Oui. Pour quelle raison? Mais parce qu'en fait, jusqu'à il y a longtemps, moi, j'ai cru que le niçois, finalement, ça mourrait jamais, puisque nous, là-haut, tout le monde le parlait encore. Et puis, au fur et à mesure de la disparition des anciens, des vieux, vieux n'étant pas péjoratif, ben je me suis dit, mais tu vas te retrouver le seul à parler le niçois, il va falloir que tu prennes des chèvres pour parler avec elle.
Eh, bon, c'était ce qui serait dommage.
Ouais, c'était pas folichon, quoi. Et donc effectivement, il faut le transmettre et il faut le parler dans la vie de tous les jours. Le niçois, c'est pas un truc. Le problème, c'est que c'est beaucoup caricaturé aujourd'hui et ça devient beaucoup du folklore. Beaucoup de gens qui, parce qu'ils disent deux trois mots de niçois, croient qu'ils parlent niçois, qui balancent deux trois expressions comme ça. Bon, c'est très sympa, mais il faut aller un peu au-delà, quoi, parce que c'est vraiment une langue. C'est une langue de tous les jours, voilà. Et...
Vous donnez des cours à quel endroit et à qui s'adressent ces cours? Tout âge.
Alors tout âge, tout niveau, et ça se donne à Tourrette-Levens tous les jeudis soirs de 19h à 20h à l'espace Schubach.
Oui.
Sachant que j'ai un collègue. Extrêmement précieux, Alain Gaziglia, qui m'aide avec les débutants.
Que l'on salue.
Oui, parce que s'il n'était pas là, parce qu'on est assez nombreux cette année, donc c'est très très bien qu'on soit deux. Et il faut à tout prix transmettre cette langue à nos jeunes, quoi.
Sont des cours gratuits ou pas?
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Vous laisserez votre numéro de téléphone ensuite au standard de France Bleu Azur. Si les gens sont intéressés, ils vous appelleront. Pourquoi avoir appelé votre association Libastian Contrari?
Alors, Libastian Contrari. Voilà. Alors, un Bastian Contrari, habituellement, c'est un gamin qui fait toujours l'inverse de ce qu'on lui demande.
Vous êtes comme ça?
Oui.
D'accord.
Oui, plutôt, oui. Je suis jamais là où on m'attend et je fais toujours l'inverse de ce qu'on veut.
Et tout cela vous amenez, oui. Vous étiez en train de me dire pourquoi vous l'appelez comme ça, parce que
et en
ça
fait,
vous ressemble.
Ouais. Ben oui, justement. Et puis parce que la langue est en train de mourir et que je ne veux pas qu'elle meure. Ouais. Voilà.
Et tout cela vous amenez doucement, mais sûrement au théâtre?
Oui et non, en fait, parce que c'est un pari, quoi. Mes étudiants, entre guillemets, m'ont dit un jour, bon, écoute, lire des textes et tout, c'est sympa, mais enfin, il faudrait peut-être quelque chose d'un peu plus vivant. Donc, on a dit, ben, on va jouer, pourquoi pas jouer une pièce de théâtre. Mm-hmm. Bon, alors après, il fallait la choisir. Alors, tout le monde connaît les pièces de Francis Gag, enfin, tout le monde, beaucoup de gens connaissent les pièces de Francis Gag.
Oui.
On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On joue ça, on joue pas ça. Et puis, ils m'ont dit, bah, écoute, si on faisait un truc de par ici, et puis voilà. Puis on m'a dit, allez, est-ce que tu es capable d'écrire ça? Non, je suis pas capable, je suis capable.
Sacré challenge.
Et puis voilà. Et puis voilà,
vous avez écrit la suite des aventures de Frédéric Bélanger dans quelques instants sur France Bleu.
Adrien Mangano. Passion. 10h30, 11h. Passion Azur. France
Bleu Azur. Libastian Contrari est une jeune association qui a pour but de promouvoir la langue niçoise dans le village de Tourrette-Levens à travers des cours de Nissart, mais aussi des spectacles. Et à l'initiative de ce projet, entre autres, Frédéric Bélanger, un agriculteur amoureux de notre terre et de notre culture. Alors, pour écrire cette pièce, vous vous êtes lancé dans un travail de recherche. Vous êtes inspiré de ce qu'avaient vécu vos grands-parents ou pas?
Oui, voilà. Plus qu'un travail de recherche, en fait, c'est un travail de souvenir. Hein.
Mm-hmm.
Parce qu'à l'époque, c'était quand j'étais gamin, dans les années 70, il y avait encore le système des veillées et autres. Donc en fait, j'ai été nourri de toutes ces histoires, de tous ces personnages qui pour moi étaient des personnages, mais qui pour eux étaient des personnes de chair et de sang. Hein. Et donc voilà, je me suis servi de tout ça, de tous ces souvenirs, et puis j'en ai fait un beau mesclion là, et ça a donné une pièce.
Qui s'appelle
Vidadaki.
Vidadaki, la vie d'ici. Alors une fois la pièce écrite, il a fallu trouver des personnes pour la jouer quand même.
Ça a été les membres de l'association que j'ai condamné à jouer
et qui n'étaient pas volontaires.
C'est-à-dire qu'au départ ils y sont venus un petit peu en reculant, et puis finalement ils se sont pris au jeu. Et sincèrement, bon, on est toujours des amateurs et puis on restera des amateurs. Mais il y en a deux ou trois qui se sont révélés, quoi. Mais c'est assez extraordinaire.
Génial, ça. Est-ce qu'ils savaient au départ qu'ils devaient jouer face à un public, ou ils pensaient que c'était entre vous?
Non, au départ c'était un pur pari, quoi. Et puis un jour le président des Amis du Château à Tourette, Francis Bellet, nous a dit bon, écoutez, moi je vous offre la scène cet été, au mois d'août. Et puis on a pris le pari. Et puis quand il a ouvert les rideaux, on s'est retrouvé face à 500 spectateurs.
500, c'est bien.
Et là, on s'est dit, dans quelle galère s'est-on embarqué? Mais c'était trop tard. Et en fait, ça a été génial, quoi. Ça a été génial. Alors moi, en plus, l'ayant écrite, ce qui a été génial, c'est de voir l'accueil du public, qui parfois ne correspond pas du tout à ce qu'on imaginait avant, quoi. C'est-à-dire, les gens rient pas au moment où on le pensait, les gens, enfin, c'est assez phénoménal, quoi. C'est un bébé à qui on lâche la main, et puis il se met à marcher, et puis voilà, il se débrouille tout seul, quoi.
Alors, pas forcément évident d'apprendre un texte, le jouer, être naturel, capter l'attention du public, ça s'apprend au fur et à mesure, ça, non?
Oui, mais on a eu la chance quand même d'avoir un sacré coup de main d'une prof de théâtre, qui est sur Tourette, d'ailleurs, Véronique Vernette, qui nous a bien aidé. Bon, et puis après, ça vient, comme ça, on sent le public, on le sent pas. Et puis il y en a qui franchement se sont révélés, quoi. Donc, je pense qu'il y en a qui ont raté des vocations.
Vocation, vous pensez votre cas ou pas?
Non, je pense pas. Non, je pense pas.
La distribution des rôles s'est passée comment?
Ben en fait, je l'ai faite parce que les élèves là, je l'ai un peu écrite quand même en pensant à eux, quoi. Donc il y avait déjà des rôles un peu prédéterminés, quoi. Ce qui sera différent pour la seconde, parce que je suis en train d'écrire la suite.
Et qui s'appellera?
Qui s'appellera Vidadaki, la roi d'Avir. Donc c'est 30 ans après, quoi, en fait. Hein.
Spectacle itinérant, je veux savoir si...
Oui, tout à fait, c'est itinérant. Donc là, les prochaines dates, c'est le 20 février à Levens, à 20h30. Et après, on devrait avoir Quaraz le 28 mars. On a Villars le 31 juillet. Puis on a d'autres dates en cours de négociations.
D'accord. Depuis le début de la pièce, depuis les premières représentations, combien de personnes ont vu le spectacle Vidadaki?
Un peu plus de 1200, là.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. En fait, on n'en revient pas nous-mêmes, d'ailleurs, mais c'est assez sympa, quoi. Mais ce qui compte, au-delà du fait d'avoir un chiffre de spectateurs élevé ou autre, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça fasse se déplacer les gens, se rencontrer les gens, que les gens se rendent à nouveau compte que c'est une langue qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, qu'ils utilisaient dans la vie de tous les jours, mais qu'ils ont un petit peu abandonné par facilité, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Et puis le plus intéressant aussi, ça serait d'y faire revenir des spectateurs plus jeunes. Et ça, c'est un combat, quoi.
Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y avait des jeunes dans la salle?
Quelques-uns, mais il est évident que la moyenne d'âge est quand même assez élevée, quoi. Il faut pas se voiler la face. Il faut bien comprendre que c'est pas une langue passéiste, c'est pas dans le but de revenir à des traditions, peu importe, quoi. Le but, c'est que ça vive.
Voilà. On va terminer en beauté avec cette phrase, et vous allez la dire mieux que moi d'ailleurs, pour que vive la nostra
lingua. Ah, per que vive la nostra lingua di tradition, si réveillerait bien l'air, ou
exactement, Frédéric Bélanger, merci beaucoup de votre visite. À très bientôt, vous nous tiendrez au courant, bien sûr, des prochaines dates et les lieux où vous allez jouer.